Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous écoutez le programme de Studio Tamani de 18h, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au journal. Du nouveau de l'affaire dite avion présidentiel, l'ex-ministre de la communication Mahamadou Camara bénéficie d'une liberté provisoire alors que Félix Sissoko, ancien ministre de l'économie, reste en détention. La médiation internationale multiplie les rencontres pour la relance du processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Elle appelle les partis à se parler. Que pensent les Maliens de la validation du projet de la nouvelle constitution du Mali par le colonel Assimi Goïta? Il s'exprime dans notre rubrique « On en parle ». Voilà pour le sommaire de cette édition qui vous sera présentée par Imirana Kilomega à la mise en œuvre de Philly Damali. Affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel, l'ancien ministre de la communication, Mahamadou Camara, bénéficie d'une mise en liberté sous caution. L'information est donnée par le procureur général de la Cour suprême dans un communiqué. L'ancien directeur de cabinet du président Ibrahim Boubacar Keïta avait été inculpé et écroulé en août 2021. Sa co-accusée, l'ancienne ministre de Finances, Boiré Fili Sissoko, elle reste en prison pour n'avoir pas payé la caution. Les détails avec Moussa Malé Sissoko.
Ancien ministre et ancien directeur de cabinet d'Ibeka, Mahamadou Camara y recouvre la liberté provisoire. Cela après s'être acquitté de la caution de 500 millions de francs CFA, soit la valeur des 10 titres fonciers entre les mains du directeur national du cadastre, selon le communiqué du procureur. Le document précise que les ordonnances de mise en liberté sous caution ont été rendues en faveur de Mahamadou Camara et Mme Boiré Fili Sissoko, tous accusés dans cette affaire. Mais l'ancienne ministre de l'économie et des finances, Mme Boiré Fili Sissoko, reste dans sa position de détenue provisoire pour n'avoir pas acquitté la somme de 500 millions de francs CFA, explique le procureur. Il ajoute que la mise en liberté de l'ancienne ministre est subordonnée au paiement de cette caution. Pour rappel, Mahamadou Camara et Mme Boiré Fili Sissoko ont été incarcérés le 26 août 2021 par la chambre d'accusation de la Cour suprême. Ils sont accusés d'atteinte au bien public, complicité de favoritisme dans l'affaire dite avion présidentiel. L'ancien premier ministre Soumeilou Boubey Maïga, également inculpé dans cette affaire, est mort en détention le 21 mars 2022. Des mandats internationaux ont été émis contre 10 autres personnalités dans la même affaire, dont l'ancien premier ministre Boubou Cissé.
La justice malienne souffre d'une lenteur chronique, selon maître Cheikh Oumar Konari, avocat. Il estime que la lenteur dans les traitements des dossiers se trouve à tous les niveaux de la justice. Toutefois, l'avocat précise que la mise en liberté provisoire n'est pas synonyme de l'abandon des charges contre l'accusé. Il est joint au téléphone par Moussa Malé Sissoko.
Ces 500 millions ne vont pas dans la poche de l'État directement. Ça sera déposé, bien sûr, dans un compte bancaire en attendant la suite du procès. Si vous êtes condamné, donc vous serez également condamné. Par conséquent, les 500 millions-là vont être remis à l'État. Si vous êtes acquitté plus tard, les 500 millions vous seront restitués. Quand tu payes la caution, tu sors de prison en attendant ton jugement. Parce que le jugement n'est pas encore fait. Mais c'est tous les dossiers qui sont comme ça. Aucun dossier ne se termine rapidement. Vous vous souvenez de l'affaire Sanogo, ça fait 7 ans avant d'être jugé. D'autres dossiers qui ont fait 4 ans avant d'être jugés. Donc les lenteurs de la justice sont chroniques. Et c'est tout un programme politique ça, vaincre les lenteurs de la justice.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La médiation internationale, dans un communiqué, affirme que des discussions ont été menées avec les parties maliennes, tant à Bamako, à Kidal et à Alger. Objectif, relancer le processus de mise en œuvre de l'accord dont l'application piétine depuis plusieurs mois. Intala Akbilal.
La médiation affirme qu'elle soumettra dans les prochains jours des propositions concrètes en vue de relancer et d'accélérer le processus de mise en œuvre de l'accord. Il s'agit notamment de la tenue le plus rapidement possible d'une réunion de haut niveau du CSA, précise le communiqué. Au cours de cette rencontre, les parties signataires s'attelleront à restaurer la confiance entre elles. Aussi, la médiation internationale prévient que la persistance de l'impasse actuelle est porteuse de graves dangers et qu'aucun effort ne doit être ménagé pour surmonter cette impasse au plus vite. Il faut faut également noter que dans cette correspondance, la médiation a émis le souhait d'être reçue par le président de la transition afin de lui rendre compte de cette démarche. Elle exhorte à nouveau les partis signataires à s'abstenir de tout acte ou de toute déclaration susceptible de remettre en cause les acquis. En outre, elle demande à l'aménagement de convoquer une réunion de la Commission technique de sécurité CTS pour faire le point de la situation des arrangements sécuritaires sur le terrain.
Des centaines de personnes bénéficient de soins gratuits en différentes pathologies depuis ce matin au palais de sport de Bamako. C'était à la faveur d'une foire médicale initiée par Impact Sans Frontières, Impact Centre Chrétien, Église de Bamako. Selon les organisateurs, ces activités visent à soutenir des personnes démunies au Mali. Les détails avec Aboubakrine Ag Mohamedine Yatara.
Des centaines de personnes sont visibles devant les différents stands de consultation. Des spécialistes en pédiatrie, gynécologie, ophtalmologie sont présents sur le site. Des personnes consultées affirment être prises en charge sans difficulté.
Depuis 6h du matin, nous sommes dans le rang. Ils m'ont appelé pour faire la prise du sang. Et après consultation, on m'a prescrit des médicaments que je devrais récupérer dans leur pharmacie. Merci pour eux.
On est venu de me traiter avec mon pied. Il a accueilli très bien, il a donné le médicament. Je suis contente.
Pour les responsables de l'Impact Sans Frontières, cette deuxième journée vise à apporter des soins à plus de 2000 personnes. Pasteur Serge Sogoyou, responsable ICC et ISF Mali.
On a prévu une pharmacie sur place au niveau de la les patients vont recevoir divers médicaments en fonction des pathologies. Il y a une ambulance au niveau du palais des sports ici et qui va transporter donc les cas qui ne peuvent pas être traités sur place.
Rappelons que des vivres et des vêtements ont été distribués aux plus démunis hier et d'autres activités sont prévues pour la journée de demain.
La validation de la Constitution par le président de la transition est diversement appréciée par la population à l'intérieur du pays. Si des citoyens estiment qu'il était temps de songer à ce changement, pour d'autres, ce n'est pas le moment, tout en précisant que la priorité demeure la sécurité nationale. Écoutons quelques réactions recueillies dans la rubrique « On en parle » avec le concours de nos correspondants à Yoroso, Tombouctou, Bandiagara et à Bamako.
Moi, en tant que citoyen à Yoroso,
ça a pris en compte toutes mes aspirations. Mais ce qui m'inquiète, c'est la question de laïcité. Les religieux en font une polémique et j'espère que les uns et les autres vont comprendre.
Ça permettra, si toutefois il y a une mûre réflexion là-dessus, de pouvoir prévenir des problèmes auxquels nous avons eu à faire face.
Il y a beaucoup d'aspects à changer dans l'ancienne constitution. Le monde évolue, il faut évoluer avec le monde.
En tant que citoyen de Tombouctou, la constitution de 1992 doit rester pour que l'on puisse organiser des élections transparentes et ensuite revoir, n'est-ce pas, la sécurisation des différentes localités.
En tout cas, c'est une très bonne chose. Ce qui nous préoccupe beaucoup, ce n'est pas uniquement à Bagnagara seulement. On a besoin de paix d'abord, on a besoin de sécurité.
Nous connaissons désormais les 26 aigles sélectionnés pour la double confrontation contre la Gambie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. La liste a été dévoilée ce matin par le sélectionneur national Eric Chekouchel lors d'une conférence de presse tenue à la FEMA Foot. La première manche se jouera le 24 mars 2023 au stade du 26 mars et la manche retour est prévue le 28 mars au Maroc. Le sélectionneur national appelle à la résilience et à la prudence pour obtenir la victoire. Eric Sekouchel, sélectionneur des aigles du Mali, est au micro de Youssoufa Mahamadou.
L'idée, c'est toujours d'avoir un groupe équilibré qui me laisse la possibilité de jouer dans plusieurs systèmes. Ils sont dans le groupe parce qu'ils le méritent. Ils sont dans le groupe parce qu'ils ont des performances qui permettent de nous projeter sur l'avenir. Parce que le but du jeu, c'est que le Mali gagne. Ça va être un match très, 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 très difficile parce que c'est une très bonne équipe. Ils travaillent très bien. Mais un match qui est à notre portée. De toute façon, les matchs en Afrique, maintenant, sont des matchs très, 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 très difficiles. Il faut être capable d'analyser l'adversaire. Il faut être capable de proposer un contenu. Il faut être capable d'avoir un projet de jeu cohérent. Ce que j'espère, c'est qu'on gagne ce match le 24 au 26 mars.
Nous revisitons l'actualité phare de la semaine dans cette édition. Elle a porté sur la validation du projet de la nouvelle constitution, les assises spéciales sur l'esclavage à Kaï, la fermeture de la frontière nigérienne vers Meneka, sans oublier la visite du premier ministre à Mopti. Draman Maïga nous fait le point.
Imirana, nous commençons avec les assises spéciales à Kaï sur l'esclavage par ascendance qui se poursuivent. Ce week-end, 17 personnes ont été inculpées, dont une condamnée à mort. Toujours à Kaï, le mouvement Je suis les routes de Kaï menace de bloquer les axes routiers de la région ce 20 mars prochain. Au nord du pays, la fermeture du tronçon Menaka-Niger par les autorités nigériennes inquiète les populations. L'actualité, c'est aussi le projet de la nouvelle constitution qui a été validé par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, malgré les contestations. Le document va être présenté aux forces vives ce lundi 20 mars 2023. Aussi, le premier ministre Choguel Kokalameiga est en visite à Mopti depuis ce jeudi pour le lancement officiel du document de stratégie nationale de stabilisation des régions du centre. Dans le cadre de l'affaire dite d'achat de l'avion présidentiel et d'équipement militaire, Mahamadou Camara, incarcéré depuis 10 ans, vient d'être libéré sous caution. Par contre, Boiré Fili Sissoko, ancien ministre des Finances, toujours en détention provisoire.
Ainsi se referme à cette édition qui vous a été présentée par Imran Akilo Maïga. Mais en avant, nous recevons Mariam Koulibaly pour l'introduction du Grand Dialogue. Je rappelle que le Grand Dialogue de Studio Tamani est délocalisé depuis 2 jours à Koulikoro. Mariam Koulibaly, quel thème sera débattu ce soir?
Quel est l'apport économique du Festival Agna sur l'économie locale? C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Nos invités sont Fousseyni Diakité, co-directeur du Festival Agna, Boubacar Fofana, membre du Conseil local de la jeunesse. Merci.
Merci Mariam Koulibaly. Ainsi se referme cette édition. Bonne suite de programme. Plus d'un mois que des travailleurs de centres hospitaliers universitaires Gabriel Touré et de Point G observent une grève illimitée. Les deux syndicats demandent entre autres l'amélioration de leurs conditions de vie de travail et le renforcement du plateau technique. Outre ses conséquences sociales, cet arrêt de travail impacte économiquement ces structures. C'est le sujet du magazine Économie. Il est réalisé et présenté par Khalifa Goïta.
Détérioration de l'état de santé des malades, augmentation du nombre de décès, indisponibilité de certains spécialistes. Jusqu'ici, les conséquences sociales des grèves illimitées dans les hôpitaux étaient les plus visibles. Pourtant, ces arrêts de travail ont des répercussions économiques graves sur ces structures de santé. Parmi celles-ci, la baisse des ressources générées par ces hôpitaux. Oumar Touré, agent comptable du CHU Gabriel Touré.
Pratiquement le mois passé, nous avons constaté une chute de 30% du niveau des recettes. Et ce mois-ci, donc, nous nous attendions déjà à une chute entre 40 et 45% du niveau des recettes. Donc nous avons des dépenses mensuelles de 71 millions environ. Donc avec la chute des recettes, ce n'est pas du tout gagné d'avance, quoi.
Cette chute des recettes a aussi comme conséquence l'incapacité de l'hôpital à assurer certaines charges, notamment le traitement du personnel. Une situation qui préoccupe les responsables de l'hôpital, nous dit l'agent comptable Oumar Touré.
Nous avons pratiquement des charges que nous prenons sur nos ressources propres, telles que les salaires. Nous avons les primes de garde. Vous êtes appelé à faire face à des charges fixes qui sont là. Si vous ne faites pas de recouvrement, comment est-ce que vous allez pouvoir gérer? C'est ça le problème, effectivement. La situation met mal à l'aise tout le monde. Ça met mal à l'aise les patients, n'est-ce pas? Leur prise en charge, c'est important. Ça met mal à l'aise également toute l'administration.
Les pharmacies, notamment celles situées à proximité de ces hôpitaux, subissent aussi de plein fouet les effets de ces grèves. Ces officines voient elles aussi leurs recettes chuter, comme en témoigne ici ce pharmacien qui a requis l'anonymat.
Nous vivons une période très très difficile. Nos recettes ont chuté pratiquement de 60%. Qui connaît la pharmacie? Nous, à pareil moment, c'est des périodes de pointe. À pareil moment, nous avons des clients qui sont en rang ici ou bien pratiquement qui se bousculent. Mais présentement, si vous jetez un coup d'œil sur la pharmacie, on n'a même pas 2 clients au comptoir. Et sur le plan financier, ça va pousser certainement la pharmacie à penser à réduire le nombre de personnel, parce qu'on ne peut pas payer le personnel s'il n'y a pas de recettes conséquentes. Mais au-delà même de la pharmacie, il faut se soucier plutôt des malades qui viennent à l'hôpital. Nous savons que le pays a des problèmes, donc on ne peut qu'appeler les syndicats à la compréhension et la direction à la fermeté. Quand je parle de direction, je parle de l'État.
Aux alentours des hôpitaux Gabriel Touré et Pongé, plusieurs personnes mènent des activités qui leur permettent d'assurer le quotidien pour leur famille. Ils sont gérants de parking auto et moto, conducteurs de taxi ou vendeurs à la sauvette. Ils se disent affectés par cette grève illimitée dans les hôpitaux.
Je suis parkeur. Nos recettes ont diminué. Or, on pouvait gagner 10 000 ou 15 000 francs par jour. La grève a impacté notre travail.
Je vends de la boisson, du thé et du sucre ainsi que de l'eau en sachet. À côté de l'hôpital Gabriel Touré, avant je pouvais vendre 2 à 3 paquets d'eau par jour. Tel n'est pas le cas aujourd'hui.
Je vends du blé et nos recettes ont baissé. Ça nous fait mal. C'est dans ça que nous sommes payés par mois. Nous voulions très bien que ces grèves prennent fin, quoi.
Nos tentatives pour faire réagir les responsables de l'hôpital Point G sont restées vaines. Il faut tout de même noter que les mouvements de grève illimités dans ces hôpitaux se poursuivent. Même si au CHU Gabriel Touré, un des syndicats, à savoir celui des cadres médicaux, a levé son mot d'ordre mardi dernier.